Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea, banque, entreprise et institutionnelle.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 29 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Anne-Laure Saint-Marc-Gérardin, fondatrice de Carmine Capital, société de conseil en fusion-acquisition indépendante, et Marc Leclerc, le directeur général adjoint du groupe Ener. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain. Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Guillaume Richard, qui est le président, le fondateur de WeCare. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1973, diplômé de l'EDEC Business School, super école. Un souvenir de votre premier job, c'était à la Française des Jeux, vous faisiez quoi ?
J'étais contrôleur de gestion sur les grands projets d'infrastructure de l'entreprise.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 3 ans.
Ouais. C'était sympa, non ?
Ouais, très sympa. Ouais. C'est une entreprise qui est assez incroyable avec des collaborateurs qui sont en moyenne de très 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 haut niveau.
Ouais, ça c'est bien de souligner parce que c'est pas forcément évident. 1999, vous avez 26 ans, vous allez créer une boîte et là, paf, la bulle Internet.
Alors, effectivement, je crée une entreprise qu'on appelle At Home, avec le arrobas pour faire Internet, parce qu'il fallait soit avoir deux O dans son nom, soit avoir un arrobas quelque part.
Et c'était en 99. Hein.
Voilà. Et donc on crée une plateforme Internet de services à domicile, et très vite on rencontre une boîte qui existait à Lille depuis 3 ans, qui s'appelait Unipol, et qui faisait exactement le même type de métier, mais dans l'économie réelle. Et comme le modèle qui devait tout révolutionner, c'était le click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle, on décide de fusionner nos deux entreprises. Et donc, on prend le nom O2, le temps qu'on se décide donc sur le nom, sur la répartition des parts, sur la répartition des rôles, sur le business plan de l'ensemble unifié. On arrive en avril 2000 avec un super projet. Et avril 2000, c'est quelques jours après l'explosion de la bulle Internet. Et autant tous les jours avant, il y avait 1, 2, 3, 5, 10 levées de fonds, autant là, il y en a peut-être eu 4 ou 5 jusqu'à la fin de l'année. Et je vais tuer tout de suite tout suspense, nous n'avons pas fait partie des 4 ou 5 levées de fonds.
Ouais, c'est ça, quoi.
Mais comme on avait un projet joli, on a gagné un prix de création d'entreprise, donc on a pu lancer un premier pilote. On n'avait pas assez d'argent, donc il y a 2 associés qui ont dû quitter l'aventure.
On vous travaillez aussi, vous aviez
ouais,
un boulot en parallèle.
J'ai dû reprendre un emploi salarié pendant 3 ans, donc de mars 2001 à fin juin 2004. Pendant la journée, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais H, et le soir, le week-end, pendant mes vacances, je m'occupais de ma boîte. Et je m'en occupais d'autant plus que mon associé, qu'on avait laissé aux commandes de l'entreprise, un peu plus d'un mois après que je l'ai laissé, apprend qu'il est atteint d'un cancer des os. Alors je peux le dire aujourd'hui parce que ça fait plus de 20 ans que la rémission est totale. Ouais. Mais donc, lui, il a passé du temps à se soigner, puis moi, j'ai essayé de gérer ça.
Vous avez 3 jobs. Et les autres copains aussi associés, quoi. Voilà. Ouais, c'est fou. Et alors, le regard sur l'échec, aujourd'hui en France, on dit voilà, c'est bien, il faut faire comme les Américains, il faut échouer. C'est pas vrai. Quand on se plante, ils se disent c'est un nul, non ?
Alors, c'est malheureusement souvent ce qui se dit, mais effectivement, on apprend de ces échecs. Mmh. Et on apprend beaucoup plus de ces échecs que de ces succès. Et les difficultés vous permettent d'avancer, de progresser, de vous reposer des questions sur...
Vous avez douté pendant cette période, parce que c'était vraiment pas... aujourd'hui, tout va bien, vous êtes riche, tout va bien, mais... vous avez douté, quoi.
Mais tous les jours, on doute. Ouais. Tous les jours, on se pose la question de... est-ce que la décision que je prends est la bonne ? Parce que parfois, vous devez prendre des décisions qui sont souvent compliquées, surtout quand vous êtes dans des entreprises de croissance. Dans une entreprise de croissance, les dirigeants qui étaient là à un moment ne sont plus forcément les bons.
Oui. Et donc vous l'ont été, mais ne le sont pas forcément maintenant.
Ne sont plus forcément. Et donc, c'est parfois compliqué de devoir se séparer de personnes que vous appréciez énormément, qui ont été des compagnons de route pendant longtemps, mais qui ne sont plus les bonnes personnes pour franchir les prochaines étapes de la vie de l'entreprise. Mmh. Vous posez des questions sur les décisions que vous pouvez prendre en vous demandant si c'est la bonne. Et parfois, de toute façon, vous ne savez pas si c'était la bonne, mais il faut prendre une décision.
Ouais.
Donc, je pense que le doute est consubstantiel au fait d'être un entrepreneur.
Guillaume, aujourd'hui, tout va bien, une belle ETI, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 000 collaborateurs, c'est ça. Racontez-nous quels sont les différents métiers. Et vous avez plein de marques aussi.
Oui, alors effectivement, on fait avant tout du ménage, de la garde d'enfants, du repassage, de l'accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap, donc un ensemble de services à la personne. Et on le fait à travers une grosse dizaine de marques. Et pourquoi est-ce qu'on a une grosse dizaine de marques ?
Oui, parce que déjà, WeCare, c'est déjà une jolie marque. Hein. Pourquoi pas avoir plusieurs ?
Oui, alors WeCare, c'est le nom de la holding. Et en dessous, on a une grosse dizaine de marques, dont O2, APEF, France Présence, la Compagnie de la Vendière, Interdomicilio en Espagne et au Portugal. et une dizaine d'autres en plus. Et pourquoi ces marques ? Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une proposition de valeur qui est différente. Et la proposition de valeur est différente soit pour les clients, soit pour nos collaborateurs. Ça veut dire que, par exemple, si je vous propose du ménage, vous pouvez faire de l'entrée de gamme avec Berylus, vous pouvez faire du moyen de gamme, surtout centré sur les personnes âgées avec APEF, vous pouvez faire du moyen haut de gamme avec O2, exactement le même type de proposition avec la compagnie des Lavandières, mais avec une particularité côté salarié, et puis vous pouvez faire du très très haut de gamme avec Maison Elia Paris.
Oui, une marque qui est à la position de Guillaume encore.
Alors là pour les clients, mais c'est aussi par rapport à nos collaborateurs. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, la compagnie Lavandière, c'est une entreprise qui est basée sur les modèles libérés ou semi-libérés, nous on appelait ça plutôt responsabilisant, avec un organigramme extrêmement plat, et comme il y a très peu d'encadrement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes types de salariés, ce sont des salariés que l'on peut mieux rémunérer, 15 à 20% de plus que le marché, parce qu'il y a très peu d'encadrement.
Alors ?
Oui, du coup, vous avez un grand portefeuille de marques donc associées à des services qui ont des propositions de valeur différentes. La construction de ce portefeuille de marques, est-ce que c'est du développement interne ou est-ce que vous avez opéré via de la croissance externe ?
Eh bien, il y a de tout. Il y a à la fois des marques qu'on a rachetées et puis des marques qu'on a créées. Par exemple, la compagnie Lavandière, on l'a créée ex nihilo. Ouais.
Qui l'a trouvé dedans, d'ailleurs ?
Alors ça, c'est pas moi, pour le coup.
Non, c'est un copain, 2h du matin, un petit verre, non ?
ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de WePlay.
Bon, faut pas le dire, ça, à la radio, hein, avec modération, tout ça. Ouais.
Mais non, la compagnie Lavandière, ça a dû être trouvé par l'équipe de com. Ouais. Parce qu'on voulait parler d'une entreprise où, c'était, où les intervenants étaient vraiment au centre de la proposition de valeur qu'on leur faisait. On voulait se dire, tiens, bah, c'est un peu la guilde des experts du ménage, et donc c'est comme ça qu'est née cette idée de la compagnie Lavandière. Mais donc il y a à peu près la moitié des marques qu'on a créées nous, et la moitié des marques qu'on a rachetées.
Et ces opérations de croissance externe, du coup, c'est des opérations qui sont liées à des opportunités, c'est-à-dire qu'on vous a sollicité sur des sociétés à reprendre, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher parce que vous souhaitiez...
Eh bien, les deux.
Décidément.
Mais oui, mais parce qu'en fait, on est... ce qui m'intéresse le plus, c'est de partager avec des dirigeants, avec d'autres dirigeants qui vont rejoindre le groupe, une vision, des valeurs, Ça peut, vous pouvez le trouver à la fois parce que vous allez les chercher, oui, mais aussi parce que vous entretenez des bonnes relations avec vos confrères et qu'au moment où ils se disent « Tiens, bah, j'aimerais céder mon entreprise » ou « Je ne suis plus la bonne personne pour l'emmener sur l'étape d'après », en fait, ils pensent à vous. Mmh. Exactement. Mmh. Et donc ça, c'est un vrai point et c'est un vrai conseil à tout le monde, c'est entretenir des bonnes relations avec vos confrères.
Et vous êtes ouvert toujours si demain Anne-Laure vient vous appeler en vous disant un coucou, on a une petite pépite.
Si jamais vous avez des entreprises en France ou à l'international qui font un peu près le même métier.
Nous sommes preneurs, quoi.
Ben, on regardera.
Absolument.
On n'est pas preneurs à n'importe quel prix.
Bien sûr.
On regardera en tout cas.
Je serais ravi de pouvoir vous présenter des opportunités alors.
Marc,
vous venez de le dire, vous avez de nombreuses entités. Comment vous gérez la gouvernance, la prise de décision avec toutes les entités que vous avez ?
Alors comment ça se passe, oui ?
Alors en fait, on a mis en place un système où le groupe est structuré avec deux grands axes. Il y a d'un côté les entreprises opérationnelles, donc toutes les marques que je vous ai citées, et de l'autre côté, les entreprises support. Et il y a une très grande autonomie dans le groupe. Tous les directeurs délégués de chacune des marques opérationnelles ont le choix de faire appel ou pas aux entreprises support. Donc dans les entreprises support, il y a recrutement, il y a le M&A, il y a les achats, il y a de la com, il y a tous les services support que vous pouvez imaginer. Et pourquoi on a structuré le groupe comme ça ? Parce que moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'avoir face à moi des personnes qui sont autonomes et responsables. Mmh. Responsables. Et si vous prenez la décision à leur place, Si vous leur imposez de faire appel à la boîte de com du groupe, aux équipes IT du groupe...
Ça marche pas.
C'est
compliqué.
Mais ça peut très bien marcher. Mais si jamais ça marche pas, ils vous disent « c'est pas de ma faute ».
Oui, c'est ça.
Tu m'as imposé de bosser avec la boîte de com du groupe. Ils ont mis en priorité la marque principale, qui se comprend, mais nous, on est une plus petite marque, on a été mis de côté derrière, le truc n'est pas arrivé dans les temps, c'était pas hyper bien, et donc on n'a pas le résultat, mais c'est pas notre faute. Mm-hmm. Et toi, ça, c'est un système qui responsabilise tout le monde. Ça responsabilise les patrons des entreprises support, parce que si jamais ils ne sont pas suffisamment bons, bah, ils perdent les marchés.
Oui.
Et ça responsabilise aussi les entreprises opérationnelles, parce que derrière, ils sont totalement responsables de leurs résultats.
Ouais, quand ça marche, c'est grâce à eux. Quand ça marche pas, bon,
voilà.
Alors
Oui, je voulais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, vous parliez du fait que dirigeant, c'est prendre des décisions difficiles, et vous parliez notamment des compétences des collaborateurs, se séparer de certaines personnes parce que les compétences ne suivent pas. Comment vous, en tant que dirigeant, parce que être chef d'entreprise, c'est aussi un métier qui évolue avec son entreprise, comment est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous faites évoluer vos compétences?
C'est quoi votre plafond de verre à vous, là, Guillaume?
C'est une très très bonne question, et de toute façon, c'était une des questions qu'on s'est posées très tôt. Donc, en 2005, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'était de devenir le numéro un mondial. Donc, le numéro mondial faisait 3,5 milliards de dollars, et on s'est dit, tiens, on va se donner 30 ans pour devenir numéro un mondial.
À 30 ans?
Oui, parce que, attends,
et
tu fais 250 000 euros de chiffre d'affaires, le numéro un mondial, il fait 3,5 milliards, tu te dis pas, je vais faire ça en 15 jours.
Ça fait 25 ans, mais 30 ans,
non, on s'est donné 30 ans, on s'est dit, en 10 ans, on doit être numéro un en France, en 20 ans, on doit être numéro un en Europe, en 30 ans, on doit être numéro un mondial. Et à partir du moment où on s'est donné cette ambition, on était trois dirigeants, on s'est dit, bon, soyons un peu sérieux, c'est pas sûr qu'on soit capable, chacun, non seulement d'être les bonnes personnes, mais d'y prendre le plaisir. Est-ce qu'on aura l'appétence et les compétences? Et très vite, il y a un des trois associés, donc ça c'était en 2005, et en 2010, il y a un des trois associés qui nous dit, voilà, moi c'est plus mon kiff.
J'arrête.
Parce que moi je suis un défricheur, et là ça commence à se structurer, c'est plus mon kiff, je prends plus de plaisir, je suis plus la bonne personne, organiser ma sortie. Et on lui a organisé sa sortie. Et le deuxième, c'était le directeur de l'IT. Lui, ça a été en 2017. Pareil, il me dit, voilà, moi, j'adore développer, j'adore mettre... Et là, en fait, le métier de patron de l'IT, il a complètement changé. On me demande maintenant d'intégrer différents systèmes. Moi, c'est pas ce qui m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est de développer, c'est de concevoir des systèmes. Et donc, organise ma sortie, je lui ai organisé sa sortie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit dès le départ. On ne serait pas forcément les bonnes personnes. Il faudrait qu'on ait le courage de se le dire, le courage de l'entendre, de l'accepter, et puis d'en tirer toutes les conséquences. Ouais. Et de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, moi, je continue à m'amuser. Je pense que je suis plutôt bon dans ma fonction de président. Par contre, en tant que DG, j'atteins mes limites de compétences. Et c'est pour ça que j'ai structuré les choses pour pouvoir avoir une DG qui va me remplacer assez dans les années qui viennent.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Barbara.
Bon, allez, on la salue, Barbara. Bon courage, Barbara. Marc?
Vous êtes un acteur majeur de la dépendance. Quel est votre point de vue sur le vieillissement de la population en France?
Vous avez 3 heures.
Oula. Alors déjà, je ne sais pas... Le point numéro un, c'est qu'on est face à une certitude qui est la transition démographique. Le vieillissement de la population est totalement documenté et on sait exactement... on va faire face dans les très prochaines années à une explosion du nombre de personnes âgées. Et ces personnes âgées, leur volonté numéro une, c'est de pouvoir rester chez elles. Plus de 91% des personnes âgées disent « je souhaite pouvoir rester chez moi ».
Le plus longtemps possible.
Le plus longtemps possible chez moi et ne pas être emmené dans un établissement. Et quand on y pense, moi je les comprends. Vous imaginez un peu le traumatisme que c'est qu'on vous dise du jour au lendemain, papa, maman, t'es plus capable de rester chez toi, t'es plus capable de rester chez toi, tu n'es plus capable, dorénavant, tu ne pourras plus choisir l'heure à laquelle tu manges, tu ne pourras plus choisir l'heure à laquelle tu te lèves, tu ne pourras plus choisir les personnes qui vont s'occuper de toi, tu ne pourras plus choisir ce que tu vas manger, tu vas être dans un établissement qu'on va plus ou moins t'avoir imposé, tu auras des personnes qui seront très sympas et très bien formés, mais tu ne les auras pas choisis, qui vont venir s'occuper de toi, tu vas devoir manger à des heures qui seront imposées, tu vas devoir agir en collectivité, tu vas devoir quitter ton environnement, les commerçants que tu connaissais dans
ton
quartier,
chat,
etc.
Ton chien,
voilà, etc. Vous imaginez l'arrachement que ça représente? Et donc, aujourd'hui, mon enjeu numéro un, c'est de structurer, ce qui est très moche comme terme, on va trouver un autre nom pour ça, mais de l'EHPAD à domicile. être capable de répondre aux 7 dimensions qui vous permettent de rester chez vous comme un EHPAD, comme un établissement, est capable de vous assurer un logement adapté, un logement équipé, des services à la personne pour s'occuper de vous, des soins et de la santé, des loisirs et activités, une gestion administrative et une optimisation financière. Donc tout ça, on est en train de travailler pour pouvoir être capable de proposer véritablement une solution, parce qu'aujourd'hui on fait juste une de ces 7 dimensions, qui est celle des services à la personne, et donc on a besoin de compléter, et c'est ce qu'on a déjà fait aujourd'hui avec la Silver Alliance, et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre avec une entreprise du groupe qui s'appelle Autonomia.
Guillaume, vous faites partie du comité de soutien du ETI Summit, hein, qui va se dérouler le 2 avril à la Sorbonne. Quelle est votre vision de cette problématique des ETI? Il y en a 7000 en France, vous êtes une sur 7000, est-ce qu'on chasse en meute? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire comprendre déjà cette marque ETI? C'est quoi les problématiques des ETI selon vous?
Il y en a 7000 en France, 7000, ouais. c'est pas 1700 en France et 7000 en Allemagne?
7000.
Ok. Bon, donc, il y a 7000... Bah, super qu'il y ait plein d'ETI...
Il y en a beaucoup plus en Italie et en Allemagne. Hein. Oui.
Bah, très bien que ça soit de plus en plus reconnu. Effectivement, on a la problématique que rencontrent toutes les ETI, c'est... déjà, c'est... Combien de générations faut-il pour arriver à la taille d'une ETI? Parce que très souvent, ce sont des entreprises familiales. Il y a des problématiques où on n'est pas encore des très grands groupes, mais on a quasiment toutes les contraintes des très grands groupes. Et donc, il y a cette question centrale aussi, qui est celle de la transmission. À qui est-ce que l'on transmet? Est-ce qu'on transmet dans un cadre familial? Est-ce qu'on peut transmettre à ses salariés? Moi, c'est le souhait que j'ai, c'est de
pouvoir... Aux salariés, plutôt?
Transmettre aux salariés. Et là-dessus, il y a des choses qui doivent évoluer au niveau...
Des dispositifs, vous voulez dire?
Ouais, des dispositifs qui doivent évoluer pour qu'on puisse faciliter la transmission à des collaborateurs. Et dans l'absolu, quand vous y pensez, 15 secondes, quand vous transmettez de l'argent, vous pouvez en profiter. Quand vous transmettez un bien immobilier, vous pouvez en profiter. Ouais. Quand vous transmettez une voiture, vous pouvez en profiter. Même quand vous transmettez une œuvre d'art, vous pouvez en profiter, vous pouvez la regarder, etc. Quand vous transmettez une entreprise, bah ok, le jour où vous avez les clés de l'entreprise, vous en faites quoi? Rien. Donc, c'est complètement aberrant de taxer la transmission d'une entreprise. Il faudrait qu'on taxe au moment où l'entreprise est vendue, au moment où elle réalise des bénéfices
déjà taxé,
et des dividendes.
Hein,
oui, mais c'est à ce moment-là qu'il faut taxer, c'est pas au moment où on transmet une entreprise. Vous pouvez pas en profiter quand vous avez les clés d'une entreprise et titres de propriété. Ok, génial, j'en fais quoi? Vous avez les titres de propriété d'une maison, vous pouvez l'habiter. Vous avez les titres de propriété d'une entreprise,
vendre,
en fait,
oui.
Quoi?
Bah,
voilà. Alors, si vous la vendez derrière, très bien, vous êtes taxé au moment où vous la vendez.
Parce que vous l'avez vendue.
Ouais. Parce que vous l'avez vendue, mais pas parce qu'on vous l'a transmise. C'est aberrant. Quand on y pense 15 secondes, c'est complètement aberrant de vouloir transmettre
du boulot pour les ETI,
la transmission
des boîtes, quoi.
D'une entreprise, que ce soit à ses salariés ou à n'importe quelle personne, en fait.
Guillaume, pour terminer, vous êtes un gourmand, on va le dire. Ouais. Vous aimez les bonnes petites choses, que ce soit la gastronomie ou les vins. Votre dernier coup de cœur côté vin, qu'est-ce qu'il y a eu comme bouteille que vous avez mue avec ou sans bulle, hein, Guillaume?
Alors, moi, j'ai deux bouteilles dernièrement qui m'ont... très fortement ému. D'abord, un vieux champagne. Je ne savais pas qu'un champagne pouvait vieillir et bien vieillir. Ouais. Et que derrière, on perd l'effervescence, mais on garde la pétillance.
Ouais, on tend vers le vin.
Vers le vin, ouais. mais on continue à avoir un peu de pétillance. Et ouais. C'est vraiment extrêmement agréable. Et donc, c'était une cuvée Louise de chez Pommery, 87. Vraiment,
exceptionnel,
vraiment,
quoi,
vraiment très sympa.
Marc, vous avez une question à poser à Guillaume?
Non, pas une question, simplement, j'adore vos boutons de manchette avec les Wicker. Je trouve ça très élégant.
Très élégant. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Laure et Marc. Fin de ce numéro 2 TI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous sur LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle.